ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Jean-Luc Fabre. Bonjour, je ne sais pas s'il faut vous appeler mon père, mais vous êtes jésuite.
Bonsoir.
Oui, vous avez travaillé longtemps dans les groupes CVX et puis vous êtes rédacteur en chef de la revue Christus, dont nous parlerons un peu plus tard, mais également vous êtes l'accompagnateur du groupe toulousain et pour toute la région des 7 pour faire du 9. Nous avions déjà eu ici le plaisir de discuter avec Anne Reboux, mais là vous nous faites l'honneur de venir parler de votre conversion, ou plutôt de votre foi, de vos engagements. Alors, vous êtes Aveyronnais, et déjà à 4 ans, vous avez eu ce sentiment d'une égalité entre tout le monde, toutes les générations, les hommes, les femmes, votre grand-père.
C'est exact. Je suis né en 56, donc ça veut dire que c'était fin des années 50, début des années 60. Et il y avait la tradition dans ma famille de réciter le chapelet. Et donc, il y avait, je m'en souviens, il y avait donc ma grand-mère, ma mère, la femme du frère de ma mère, donc la bru, Dédé. Et il y avait donc mon grand-père qui était hémiplégique et moi. Et la vie familiale était quand même très structurée. Il y avait ma grand-mère qui était vraiment la chef. Il y avait Dédé qui était la bru, et puis il y avait ma mère qui était la fille de la maison. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était de voir que pendant le temps de la récitation du chapelet, chacun prenait son tour et que d'une certaine manière, il y avait l'expression d'une véritable fraternité. Et même moi qui étais tout petit, qui n'avais rien à dire, et mon grand-père qui était hémiplégique, qui ne pouvait pas parler, nous avions le sentiment d'être inclus. Et c'est vrai que c'est le premier souvenir de foi, et quelque part, cette foi, elle est liée très fortement pour moi à la fraternité.
Ça tombe bien, cette semaine où nous fêtons la visitation de la Vierge Marie. Mais c'était un sentiment de plénitude, un sentiment de Jésus, Marie, Joseph, le Saint-Esprit. Vous voyez, ça, ce sont des mots d'aujourd'hui avec, on va dire, le dogme, ou tous les saints qui font partie...
Alors là, c'était plutôt cet acte religieux que je ne comprenais pas forcément, mais c'était surtout le fait que ça m'a vraiment donné envie d'y participer. Et c'est vrai que pour moi, d'une certaine manière, les souvenirs que j'ai de la foi, c'est d'être inclus dans un groupe, d'être inclus donc dans l'Église. Et c'est quelque chose qui est un espèce de fil rouge qui traverse, je pense, toute ma vie.
Avec donc ce sentiment profond qui a été renouvelé après au niveau de la communion solennelle, au niveau de la préparation de vos études, puisque vous avez fait des études, vous êtes docteur en chimie.
Oui.
Un parcours sans faute.
Oui, oui, de toute façon, comme je suis d'origine aveyronnaise, les études, c'est très important. Et puis, comme j'étais doué, j'ai trouvé un vrai plaisir. J'étais aussi fils unique. Donc, du coup, tout ça, ça a aidé à me lancer vraiment dans les études, d'essayer de comprendre.
Et alors, bientôt, le désir d'être prêtre, et pas au niveau d'incarnation d'un diocèse, mais plutôt au niveau de la compagnie des jésuites.
Alors, ce qui s'est passé, si je peux développer, donc j'étais en région parisienne, j'ai fait la fin de mon secondaire au lycée Louis le Grand. À l'époque, c'était un garçon, c'était un lycée de garçons. Hein. J'ai passé mon bac en 73. Et il y avait des gens qui étaient bien dans leur peau, donc il y avait, je sais, des protestants, des catholiques, des juifs. Et puis je me suis retrouvé en classe prépa agro avec un établissement beaucoup plus à gauche sur le plan de la culture. Il y avait des filles, et donc ça faisait quand même un grand changement. Et c'est vrai que là, je me suis retrouvé dans un milieu très hétérogène, et c'est là où je me suis quand même posé la question de la foi. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, Jean-Luc, il faut que tu prennes le temps, une fois que tu auras intégré, de te poser vraiment la question. Parce que j'avais le témoignage de mes parents qui étaient vraiment très croyants et avec une foi active. Et donc je me suis dit, il faut que j'y croie ou que j'arrête. Je me suis posé cette question. Et une fois que j'ai intégré l'école normale, j'allais suivre les cours de l'université Pierre et Marie Curie. Donc je passais devant dans une rue où il y avait un petit magasin où il y avait le Jean Daujat, qui est donc un thomiste qui proposait une formation une fois par mois à l'Institut catholique. Donc je l'ai suivi et ça a été un moment
d'ouverture
de mon intelligence d'une certaine manière. Hein.
Avant les exercices de Saint-Ignace.
Et alors ça viendra un petit peu après. Et puis il y avait aussi un moment où, et ça a été important, c'est que je demandais au Seigneur quand même, donc je priais, de m'indiquer le chemin. Et le jour même, quand je suis allé au petit déjeuner, quelqu'un m'a invité au pèlerinage de Chartres. Et donc j'ai accepté et ce pèlerinage de Chartres a été là aussi quelque chose où j'ai senti... Et l'amour de Dieu, j'ai senti un dynamisme. Quand en termes ignatiens, c'est la consolation. Et c'est à partir de là que je me suis mis à cheminer. Et alors pour cheminer, je l'ai fait de manière extrêmement intense et de manière peut-être un peu trop scientifique, en me mettant dans des expériences. Donc j'ai fait deux pèlerinages en Terre Sainte. J'ai fait même une retraite selon les exercices. Et je me souviens qu'à la fin de mon deuxième pèlerinage, eh bien, j'ai dit à celui qui m'accompagnait, qui à l'époque était donc le diacre Philippe Barbarin, je lui ai dit, je n'arrive à rien, et là, je ne sais pas. Et ce qui a été très important par la suite, c'est qu'effectivement, ça a été un moment de lâcher prise de ma part, où je ne cherchais pas à trouver la solution à partir de la mise en œuvre de mon énergie, mais dans une attitude de réception. Et ensuite, un élément qui a été très important, c'est que j'ai fait mon service national au titre de la coopération au Canada. Donc, j'étais dans la perspective de faire une thèse d'État. Et c'est vrai que souvent, je me disais, mais à quoi ça sert de faire ces longues études si c'est pour me retrouver ensuite comme prêtre? Et ce qui a été aussi un élément très important pour moi, c'est qu'au cours de ce temps au Canada, eh bien, j'ai senti que je vivais au jour le jour sans me préoccuper. Donc, je faisais bien ce que j'avais à faire sans me préoccuper et je l'ai relu comme étant l'indication d'un oui de ma part. Et au retour, j'ai fait une retraite d'élection qui a été assez, assez déterminante pour moi.
Autant de jalons. Hein. Ensuite, nous pourrions parler de vos responsabilités à l'ICAM, Nantes et Toulouse, mais je crois que le temps passe très vite. Et de même que votre mission comme assistant des communautés de vie chrétienne. Mais vous nous avez apporté un cantique, un chant de Didier Rimaud, « Pour que l'homme soit un fils à son image ». Nous allons l'écouter et nous reviendrons sur vos responsabilités sur les sept pour faire du neuf.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Jean-Luc Fabre, Vous avez été assistant des communautés de vie chrétienne, vous êtes jésuite et vous venez nous parler à la fois de la revue dont vous êtes le directeur responsable de publication,
Christus.
Merci, rédacteur en chef. Le numéro 270, le dernier, puisque le prochain va bientôt paraître, ce numéro sur la conversion, et puis l'association de Toulousaine et de la région des sept pour faire du neuf dans l'Église. Pourquoi ce chant de Dierimo, servit Dieu rend l'homme libre?
Alors, pour deux raisons. D'une part, j'ai connu personnellement Didier Rimaud parce qu'il était le supérieur de la communauté d'accompagnement quand j'étais au noviciat. Et par ailleurs, je trouve que ce chant représente très fortement la dynamique du mystère chrétien. C'est-à-dire la promesse de Dieu, le fait que l'homme se risque dans sa liberté, que quelque part il y a quelque chose qui foire, qui ne va pas, la manière dont le Christ vient pour nous réintroduire dans la capacité d'aimer, et ensuite les perspectives qui s'ouvrent à partir de là.
Hein. Captif du péché et oui. Libéré par
rend
Jésus.
Rend libre comme lui.
Parce que vous y croyez.
Voilà, servir Dieu rend libre comme lui.
Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible, que vous perdez votre liberté ou que ce sont des idées fumeuses. C'est l'être profond qui est engagé.
Voilà, alors il y a un aspect qui est peut-être très important, c'est de bien comprendre ce que servir veut dire. Et servir, c'est un terme qu'on utilise aussi, par exemple, pour servir dans un régiment. C'est-à-dire
oui,
que
Ignace s'est fait des soldats contre la réforme,
d'une certaine manière.
Puis contre Port-Royal, on pourrait dire.
Exactement. Mais ce que je voulais dire par rapport au fait de servir, ça veut dire que la dimension de servir, ça veut surtout dire être avec. C'est cheminer avec. Quand la Vierge Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », ça veut surtout dire qu'elle va vouloir être et cheminer avec le Seigneur. Donc le terme de servir veut dire être avec. Donc être avec Dieu nous rend libres. Parce que d'une certaine manière, si nous ne sommes pas avec Dieu, eh bien il y a plein de manières d'être, de faire, qui n'arrivent pas à trouver leur juste équilibre.
Vous comprenez donc, les amis musulmans qui disent qu'ils sont aussi obéissants, qu'ils sont soumis, mais la soumission, ce n'est pas le voile que l'on met sur sa tête. C'est aussi de croire que tout vient de Dieu, s'il le veut, Inch'Allah. Et ça ne supprime pas la liberté de l'homme.
Tout à fait. Avec le fait que ce qui me paraît important, d'autant plus que nous sommes au moment où on a fêté là, les 500 ans de la conversion de Saint Ignace. Hein, ça s'est joué là, à Pamplune le 20 mai, où il y a eu un boulet de canon qui l'a rendu impropre à son avenir tel qu'il se dessinait et qui a enclenché la conversion. Et je pense que ce qui est... je ne sais plus...
Sa vie pour les autres, c'est aussi pour tous.
Voilà.
Et féconder des conversions communautaires. Voilà. On a la transition par rapport à l'Église qui doit être convertie, réformée.
Exactement. Et alors justement, ce qui est important pour Ignace, hein, qui est devenu après Saint Ignace, c'est le fait qu'il a vécu une conversion très profonde, qu'il a amené à travers l'écoute de ce qui se passait en lui comme joie, comme abattement, comme douleur traversée. Il a pu se rendre compte qu'il y avait la possibilité d'entrer dans une relation de dialogue avec le Seigneur et que ceci lui permettait de cheminer et que cette découverte a été extrêmement importante pour lui puisque cette expérience, il en a eu très tôt la conviction qu'elle n'était pas que pour lui et qu'en revanche, ça demandait une nouvelle attitude, c'est-à-dire d'entrer véritablement en conversation avec les personnes.
C'est pas seulement défendre le dogme ou la tradition contre d'autres, mais c'est plutôt essayer de comprendre comment les choses évoluent. Alors, dans ce numéro 270, j'aime beaucoup le texte de Jean-Louis Schlegel sur le biais liturgique et le fait que dans notre manière de prier, eh bien, il y a à la fois affirmer la certitude d'être aimé, cette certitude qui vient à travers le chant, la musique, mais aussi l'ouverture à des formes de rituels extrêmement diverses dans l'Église.
Tout à fait. De toute façon, l'enjeu de l'Église, et c'est aussi un des aspects auxquels je me rends compte, je me retrouve bien, c'est l'unité de diversité. Et quelque part, l'Église ne peut pas être l'Église si elle ne tient pas et à la fois la diversité et à la fois l'unité.
Alors parfois,
et ça,
il y a
c'est un enjeu extrêmement actuel.
La question du cléricalisme, ou bien la question aussi de savoir entre les différentes petites chapelles ou les diocèses, à l'intérieur des diocèses, entre les différentes églises, peut-il y avoir un tiers-lieu adossé à une paroisse ? Et nous avons ce débat lorsqu'il y a eu une conférence de presse d'un certain nombre de laïcs qui se sentaient mal à l'aise dans une église, ou plutôt dans une paroisse que nous n'allons pas nommer. Mais tout le travail qui a été fait avec Mgr Le Gall, puis avec le vicaire général, vous avez suivi cela. Alors vous accompagnez ce groupe.
Je l'ai suivi de loin dans la mesure où je suis l'accompagnateur. Et donc, d'une certaine manière, je suis d'abord et avant tout au service de ce groupe, avec le fait que, bien sûr, je rencontre annuellement Mgr Le Gall pour lui rendre compte de ce qu'il convient de ma mission. Et que ce qui est important, je pense, c'est de veiller à ce que dans ce groupe, il y ait une vraie circulation de la parole. Puisque si on veut apporter des choses nouvelles, il faut d'une certaine manière les vivre soi-même. Donc il y a ce travail de permettre à ce que les personnes puissent parler, échanger, et la présence de l'accompagnateur aide pour cela.
Parce que certains vont dire, oui, mais il y a le culte au niveau d'une ville, et puis au niveau des campagnes, lorsqu'il y a moins de prêtres ou qu'ils sont surchargés, ne peut-on pas donner un peu plus de responsabilité, j'allais dire, aux dames, et pas seulement aux femmes des diacres? Et puis, toute la question du partage d'évangiles, faut-il des exégèses?
Alors, je pense qu'effectivement, le pape François le dit, et je crois très très justement, que d'une certaine manière, ce qui est extrêmement important pour l'Église, c'est de se laisser habiter par la parole de Dieu. Et tout ce qui va dans ce sens, et d'ailleurs, un des aspects là, de ma mission auprès du groupe Les Sept pour faire du neuf, c'est d'aider à une imprégnation de la parole de Dieu. Par exemple, pendant le temps de Pâques de l'an dernier, pendant le confinement, nous avons regardé comment l'Église s'est constituée à travers un parcours dans les Actes. Au début de l'Avent et de Noël, nous avons essayé de voir aussi comment des vieilles personnes, en la personne d'Élisabeth, de Zacharie, de Marie, de Joseph, de Siméon, comment ces personnes ont été capables de s'ouvrir à la nouveauté. Donc d'ancrer ce cheminement dans la parole de Dieu, d'ancrer ce cheminement dans la fraternité universelle et dans la capacité de se laisser conduire par les événements.
Parfois c'est dur.
Parfois c'est dur, parfois c'est heureux.
Hein, parce l'arbre que de la nous, croix indigne, nous... indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, mais je fais toute chose nouvelle.
Oui.
D'où parfois certaines peurs, certaines inquiétudes. Et le pape François disait, Jésus trouvera-t-il la foi sur la terre quand il va revenir ? Mais c'est l'huile de la prière qui permet à la foi d'être forte.
Oui, je pense que c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, la dernière réunion qui a eu lieu au mois d'avril, eh bien, nous avons pris un long temps pour échanger sur la parole de Dieu dans le groupe.
Et vous nous avez apporté un psaume, parce
oui.
qu'il vous est cher. Et
oui, alors c'est un psaume qui est le psaume 15. C'est « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Et ce que m'avait justement appris Didier Rimaud, qui était donc au noviciat, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc vous avez au début « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas très très assuré. Et à travers le cheminement qui est retranscrit dans le psaume, le psalmiste va dire « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » Et donc ce que j'ai découvert à travers ce psaume, c'est que tout psaume raconte un cheminement spirituel et qu'on a vraiment la possibilité d'entrer profondément dans l'intelligence du psaume lorsqu'on regarde le même mot qui apparaît, mais pas dans le même contexte, et on essaie de voir comment on peut s'expliquer le chemin.
Alors ça, c'est la prière, et vous accompagnez aussi des jeunes dans ce qu'on appelle le coaching vocationnel. C'était un numéro que vous aviez écrit l'année dernière dans votre travail d'intimité avec certaines personnes lors des exercices.
Oui.
C'est une partie de votre vocation parmi les multiples activités que vous avez. Vous arrivez à tenir le grand écart entre la responsabilité d'une revue, des accompagnements de la prière et la vie en communauté.
Oui, cela m'arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que lorsque j'étais à l'ICAM, j'ai été amené avec d'autres personnes à développer ce qu'on appelle la pédagogie de la décision et notamment de travailler sur le projet professionnel. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des perspectives et j'espère que pour la fin de mon existence, je vais pouvoir m'investir davantage dans cette piste, c'est-à-dire de permettre à chacun de se connaître en profondeur de telle manière qu'il puisse entendre ce que le Seigneur lui dit à travers son humanité. Parce que le Seigneur ne nous parle pas que par des grandes décisions, que par des grandes décisions d'Église, que par des dogmes, mais il nous parle surtout à travers la manière dont nous nous comportons dans notre vie.
Et vous accompagnez votre maman qui est en EHPAD.
Exactement.
Et ça, c'est encore aussi un lieu de souffrance, mais d'offrande de ce mystère de la vie.
Oui. Alors, une des choses qui me réjouit, même si ma maman a perdu beaucoup de sa mémoire avec tout ce que cela entraîne, elle a la chance, à 92 ans, d'avoir encore une bonne santé et de garder une vraie joie de vivre, dans la mesure où c'est une femme qui a toujours été d'une nature assez contemplative. Et du coup, elle est très capable d'accepter de vivre tranquillement dans sa chambre sans que rien se passe, parce que ça la nourrit, ça la nourrit.
Et donc, certains vont débattre sur cette loi de la fin de la vie. Et on parle d'un complot, on parle de la lutte contre la dignité de l'homme. Nous avons ici des grandes discussions pour savoir qui fait la loi, loi de Dieu, loi des hommes, jusqu'où peut-on respecter la dignité de l'individu. Ce sont des débats qui peut-être apparaîtront dans un prochain numéro de Christus. En tout cas, vous en préparez un qui va bientôt sortir.
Oui. Nous allons aborder la question de la perte. Hein, parce que dans tout ce qui arrive dans l'humanité, tout ce qui arrive à toutes les personnes, il y a des moments où nous sommes arrivés à perdre et à perdre des choses sous un mode irrémédiable. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte sur laquelle on ne peut pas revenir. Alors, je ne peux pas redire parce que les articles qu'on est en train de recevoir, il y a une chose qui me frappe beaucoup. C'est une attitude de vie que je reçois, c'est que d'une certaine manière, pour arriver à traverser la perte, eh bien, il y a d'une certaine manière d'abord à l'accepter et à s'ouvrir à la situation telle qu'elle est, de telle manière que, refaisant des pas nouveaux, eh bien, il y a un chemin qui apparaît. Et moi, ça me frappe beaucoup dans tous les articles que l'on a reçus. Ceci se trouve toujours de manière sous-jacente. Et il y aura aussi un très bel article de Mgr Rouet sur l'Église et la perte à laquelle elle est confrontée. Hein, une perte multiple, hein, parce qu'il y a un effondrement démographique, il y a un effondrement des vocations. Il y a toutes les révélations sur les mauvaises attitudes sur le plan sexuel, sur le plan aussi du rapport au pouvoir. Et c'est vrai que je pense qu'une manière de pouvoir avancer, c'est non pas de rêver de revenir à une situation antérieure, mais c'est d'accepter cette situation et d'accepter de vivre à partir de la situation dans laquelle nous sommes, tout simplement, et de faire ce qui est possible, et de faire le pas qui se présente devant nous, ce que nous recommande d'ailleurs le pape François.
Alors on dit que les jésuites dépendent directement du pape François et pas d'un diocèse, mais le travail avec les paroisses, c'est aussi quelque chose qui vous habite profondément. Alors ça, c'est le propre de tous les ordres religieux, entre les franciscains, les dominicains, chacun a sa sensibilité. Nous connaissons la devise Ad Maiorem Dei Gloria, que tout soit fait pour la gloire de Dieu, pour son royaume.
Tout soit fait pour une plus grande gloire de Dieu. L'idée par derrière, c'est que le mystère de Dieu ne cesse de se révéler. Et d'ailleurs, à travers la perte, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de nouveau et il y a quelque chose de la révélation de Dieu qui s'opère.
C'est ce que nous voyons aussi, ce que nous allons fêter lors de cette fête du Saint-Sacrement. Que le sacrement ne soit pas seulement l'adoration qui est indispensable pour certaines personnes dans le silence, mais que ce sacrement de la parole et sacrement de la charité nous permettent de vivre concrètement ce que Jésus nous appelle à être avec son esprit, que tout homme soit un fils à son image. C'est ce voilà. que vous nous redites avec vos convictions, avec votre foi.
Oui, et alors, excusez-moi, je fais peut-être un petit
peu de publicité pour
Christus, mais nous aurons pour le mois d'octobre un numéro consacré à la messe après le confinement. Et justement, un des points qui nous a paru absolument essentiel pour être vraiment dans une attitude catholique, c'est vraiment de tenir ensemble et le rapport à la parole de Dieu, la fraction du pain et le rapport aux frères. Et que c'est l'ensemble de ces trois dimensions tenues ensemble qui fait vraiment l'Église.
Pour la plus grande gloire de Dieu.
Pour une toujours plus grande gloire de Dieu.
Merci Jean-Luc.